Bienvenue sur Transistor, la radio qui vous met de bonne humeur. Aujourd'hui, c'est le petit retour de cette émission qu'est le Journal des Bonnes Nouvelles, ressuscité il y a maintenant 3 semaines. Nous vous proposons de parcourir une nouvelle fois le monde en quête de bonnes nouvelles pour contrer la grisaille de novembre. Et je cède donc ma place à Nicolas pour les titres.
Alors bonjour Alice et bonjour à tous. Alors pour ce deuxième numéro de l'année du Journal des Bonnes Nouvelles, premier numéro de novembre, les titres sont les suivants. D'abord on va vous parler d'environnement avec la naissance d'un bébé rhinocéros noir. Et ensuite on se tournera vers le coup de gueule de Yannick Jadot à la Commission européenne face au traité européen dit du CETA. Ensuite on vous parlera politique et on vous emmènera en Amérique du Sud danser la salsa. Puis, on reviendra en Europe, en Écosse plus précisément, où la première ministre Nicola Sturgeon a décidé d'aider les jeunes parents. On va aussi parler, en politique toujours et en Angleterre, d'une effigie géante de Donald Trump qui va être brûlée aux grandes bonnes nouvelles. Ensuite, on parlera culture et société, avec toujours au Royaume-Uni une loi sur le pardon des homosexuels. Et on terminera, avant de passer aux chroniques, sur Halloween, évidemment, qui fait la une de l'actualité en ce moment.
Yes, I see. Good news, everyone!
Cette fois, dans notre rubrique environnement, c'est la ville de Des Moines, dans l'Iowa, aux États-Unis, qui nous apporte une très très bonne nouvelle. Plus précisément, il s'agit du zoo de Blanc Park, qui nous réjouit cette semaine avec l'annonce d'une naissance un peu particulière. En effet, le Des Moines Register rapporte qu'un bébé rhinocéros noir est venu au monde la semaine passée. Cette naissance est cruciale pour la conservation de l'espèce, puisque, en effet, elle compte parmi les espèces les plus menacées au monde. On ne trouve en tout que 1000 individus, et ce, en cumulant les individus vivant dans un milieu naturel et les individus vivant en captivité. Le rhinocéros noir a été tellement décimé qu'en 2011, l'une de ses sous-espèces, le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest, a été classée parmi les espèces éteintes. C'est d'ailleurs ceci qui fait dire à l'une des soigneuses du zoo que chaque naissance compte. La situation est donc critique. Par exemple, cette année, ce sont seulement 7 individus qui ont vu le jour dans des parcs zoologiques. La tâche de repeupler l'espèce semble donc bien difficile. Mais ce qui est intéressant avec cette naissance, c'est qu'elle est une double bonne nouvelle, car le bébé rhinocéros est une petite femelle. La naissance d'une femelle est, selon les soigneurs, encore plus rare au sein de l'espèce. Le bébé est en bonne santé et devrait donc faire une adulte robuste capable de perpétuer sa race. C'est en tout cas ce que ces soigneurs espèrent. Une première bonne nouvelle, donc, pour la protection des espèces en danger.
Alors, en parlant de protection d'espèces en danger, on va faire un détour en politique et parler de l'espèce des écologistes. Une vidéo qui a fait le tour d'Internet récemment, c'est, vous l'avez peut-être vu, celle de Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, qui s'est emporté à la Commission européenne contre messieurs Juncker et Tusk par rapport à l'accord du CETA qui vient d'être adopté par la Commission européenne. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Yannick Jadot, soit avant d'avoir vu cette vidéo, soit avant d'avoir écouté cette chronique, il s'agit du candidat écologiste à la primaire qui est arrivé en tête du premier tour avec plus de 35% des voix. C'est donc peut-être, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, le futur candidat écologiste à la présidence de la République. Cette émission va sortir après les résultats de la primaire écologiste, donc quand vous entendrez ma voix, vous aurez peut-être déjà entendu un peu plus parler de Monsieur Jadot. Ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que cette vidéo de Yannick Jadot s'emportant contre la Commission est devenue virale sur Internet, qui montre que quand même, eh bien, les internautes, peut-être les électeurs français, s'intéressent à l'écologie. Et pour l'instant, les chiffres sont très préoccupants parce que cette primaire du parti écologiste, pour l'instant, les listes ne se composaient que d'un nombre ridicule de votants, à savoir 16 000 personnes, dont 12 000 ont participé au premier tour. On espère qu'il y en aura plus au second tour, mais dans tous les cas, 16 000 votants, ça ne représente pas une portion vraiment signifiante de la population française. Et donc si l'éviction de Cécile Duflot, de cette primaire écologiste, a fait un peu office de coup de tonnerre dans le camp écologiste il y a quelques semaines, eh bien, on ne peut pas non plus dire que ce vote représente en fait la volonté en matière de candidat écologiste, finalement, de la majorité des Français. Donc au moins que la personne qui se trouve en tête au premier tour de la primaire écologiste intéresse les internautes, c'est une excellente nouvelle pour l'élection qui se profile. Alors après cette rapide chronique sur Europe Écologie Les Verts, on va partir à l'autre bout du monde, au Venezuela plus particulièrement, où le gouvernement vénézuélien est face à une crise politique et économique sans précédent. Alors comme vous le savez, Hugo Chavez est mort en 2013 et c'est Nicolas Maduro, son dauphin, qui a pris sa place après une élection un peu disputée face à l'opposition qui grossit depuis le décès d'Hugo Chavez. Et en ce moment, la crise, en plus d'être politique, avec une opposition muselée mais grandissante, qui est étouffée en fait par des menaces à peine voilées du gouvernement, cette crise politique, donc, elle se double d'une crise économique liée à la dépendance totale de l'économie vénézuélienne à l'économie du pétrole, qui a mené à une dévaluation de la monnaie vénézuélienne sans précédent dans l'histoire du pays. Récemment, on a vu des images, des vidéos, de, par exemple, de commerçants vénézuéliens qui, pour payer, qui pour faire leur bilan financier, préfèrent peser leur argent sur une balance de marché plutôt que juste de compter les billets, parce qu'un billet individuel ne vaut plus rien. Donc c'est vous dire l'importance de la crise économique que traverse le pays. Mais qu'à cela ne tienne, Nicolas Maduro garde la bonne humeur, et ce n'est pas parce qu'il écoute le journal des bonnes nouvelles, non, c'est parce qu'il a créé une nouvelle émission radiophonique et télévisuelle intitulée La Hora de la Salsa, donc l'heure de la salsa. Un mélange entre musique salsa et information politique. Oui, je ne vous dis pas n'importe quoi, je ne fais pas non plus cette chronique pour faire plaisir à Aurore. Nicolas Maduro a vraiment fait ça. Alors, La Hora de la Salsa a été pour la première fois diffusée la semaine dernière. Prévue pour durer 2 heures, évidemment, elle a largement mordu sur son horaire. Elle a duré 3 heures. En tout cas, le président a expliqué entre deux pas de danse avec sa compagne sur La Hora de la Salsa, sur Radio Miraflores, que cet espace va leur servir à, je cite, « partager notre allégresse et notre culture caribéenne ». Alors on peut en rire, mais en attendant, on peut se douter que le peuple vénézuélien, en tout cas la part qui continue à honorer le président comme c'était le cas à l'époque d'Hugo Chavez, cette part a pu se réjouir d'écouter un peu de salsa dans ce climat politique et économique délétère. Et en plus d'être une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien, qui peut, je le rappelle, partager son allégresse et sa culture caribéenne avec son gouvernement, il y a aussi une bonne nouvelle pour le président, car pendant qu'il faisait de la salsa à l'antenne, le Parlement a annulé à l'unanimité la procédure de défiance qui avait été mise en place à l'encontre du président par l'opposition. Et donc, en tout cas pour quelque temps, et politiquement, Nicolas Maduro n'a plus beaucoup de soucis à se faire et peut se consacrer entièrement à sa pratique de la danse caribéenne.
Eh bien, moi, je vais vous ramener en Europe, et effectivement au Nord, où la première ministre écossaise Nicola Sturgeon nous fait plaisir avec une annonce qui va réjouir les jeunes parents. Elle a annoncé que l'Écosse suivrait le modèle de la Finlande et donnerait pour chaque nouveau-né une baby box, c'est-à-dire un kit des essentiels pour bébé. Le processus devrait être enclenché dès janvier 2017 dans certaines zones pilotes, puis ensuite, une distribution généralisée devrait être mise en place pendant l'été. La boîte contiendra environ 80 objets, dont des couches et des vêtements, et pourra servir de couffin pour l'enfant, afin d'aider chaque famille et afin de s'assurer que l'enfant a tout ce dont il a besoin pour commencer sa vie. Ce kit est utile et même nécessaire, ne serait-ce que parce que certains parents vivent dans des zones reculées où ces biens sont difficiles d'accès, ou tout simplement parce que certains ont des difficultés financières et ne peuvent pas se les procurer. Là, c'est le moment où je m'arrête et où je vous fais un petit historique de tout ceci. L'initiative est née en Finlande, où elle a été appliquée dès 1938, donc on note la modernité du gouvernement finlandais, pour les parents de milieux défavorisés. Elle contenait alors des couvertures, des couches, des draps et du tissu que les parents pouvaient utiliser pour faire des vêtements. En 1949, le gouvernement a décidé que ce kit de maternité serait distribué à tous les futurs parents habitant sur le sol finlandais, à la condition que la mère ait eu un rendez-vous médical durant les 4 premiers mois de sa grossesse et que la grossesse ait duré au moins 154 jours. Les conséquences de ce programme ont été très bénéfiques pour la Finlande, puisqu'en effet, l'attention portée aux soins prénataux s'est accrue et surtout, la mortalité infantile a baissé de façon significative. Le programme est tellement reconnu aujourd'hui et tellement populaire en Finlande qu'il est désormais un constituant à part entière de sa culture. Certains pays ont tenté de mettre en place des programmes similaires, comme en Argentine, en juillet 2015, mais le projet n'a malheureusement pas été poursuivi, et ce malgré les bons résultats qui avaient été obtenus. L'Écosse est donc le deuxième pays à essayer de mettre en place un tel programme, et comme le déclare The Independent, la mise en place d'une telle proposition s'inscrit dans la politique sociale de l'Écosse, qui tranche de façon assez spectaculaire avec celle des autres pays du Royaume-Uni, et en particulier l'Angleterre, puisqu'on note que effectivement l'Écosse est un pays traditionnellement socialiste, du moins par rapport au Royaume-Uni en général, et elle mène une politique de free childcare, c'est-à-dire d'une protection de l'enfance gratuite. Elle se manifeste notamment par un accès facilité aux garderies et aux aides sociales. Bon, bien sûr, on se doute que la démarche n'est pas tout à fait innocente, et en particulier aujourd'hui, puisque le parti dont est issu Nicola Sturgeon, le parti nationaliste écossais, le SNP en version originale, cherche à marquer sa différence vis-à-vis des conservateurs et à s'imposer comme le nouveau parti social en Écosse, voire au Royaume-Uni, au détriment du parti travailliste. Mais en tout cas, on peut noter que quels que soient les intérêts politiques qui motivent cette initiative, la distribution de ces baby boxes lutte aussi contre la mortalité infantile. Et ça, on peut effectivement considérer que c'est une bonne nouvelle.
Alors moi, je vous ramène en Angleterre, un peu plus au sud, où on va brûler Donald Trump. Alors ne vous réjouissez pas trop vite, ce n'est pas le vrai Donald Trump qu'on va brûler, mais une effigie géante, brûlée le 5 novembre en commémoration de la Guy Fawkes Night, donc révolutionnaire du XVIIe siècle, aujourd'hui connu pour son masque qui a été popularisé par le film V pour Vendetta, ensuite les mouvements Anonymous, etc. En tout cas, pour cette fête, chaque année, le petit village d'Edenshire dans le Kent organise chaque année un grand événement où on brûle une effigie d'une personnalité, politique ou non. Hein. L'an dernier, c'était Sepp Blatter qui s'est fait brûler après les scandales qui ont été clabousser l'ancien président de la FIFA. Cette année, Donald Trump a été choisi pour être brûlé devant Boris Johnson, artisan du Brexit, actuel ministre des Affaires étrangères au Royaume-Uni.
Ce qui n'est pas peu dire.
Oui, voilà. Donc Donald Trump avait quand même une concurrence sérieuse. L'effigie du mania de l'immobilier sera habillée de personnages mexicains, évidemment, et cette effigie tient également une tête coupée de sa rivale Hillary Clinton, qui va être du coup brûlé dans l'opération, je me permets de le remarquer. Et autre caractéristique de cette effigie géante, c'est bien sûr sa coiffure, la coiffure de Trump exagérée à l'extrême avec des cheveux blonds qui partent vers le ciel. Enfin, je vous conseille d'aller voir des images sur internet. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que vu l'élection américaine et les incertitudes qu'on a autour du résultat, eh bien on ne peut qu'approuver une initiative qui nous permet au moins de nous débarrasser de notre rage envers Donald Trump, même si on ne brûle malheureusement qu'une simple effigie de bois.
Et vous êtes bien sur Transistor qui appelle à brûler des personnes vivantes.
Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça aurait été une meilleure nouvelle.
Et on reste donc au Royaume-Uni pour cette prochaine nouvelle, qui est tombée cette rentrée. Le Royaume-Uni s'est enfin, d'aucuns diront, décidé à pardonner de manière posthume les homosexuels condamnés pour perversion. Et ce sont des milliers de personnes qui sont concernées. Pour vous donner un chiffre, ça fait environ 49 000 hommes. La décision du gouvernement a été très largement saluée, en particulier, comme on s'en doute, par la communauté LGBT. Et cette résolution, qui émane de façon peut-être assez surprenante du gouvernement conservateur de Theresa May, est l'aboutissement de nombreuses années et même décennies de travail de la part de la communauté. Cette loi sera nommée de façon symbolique la loi Alan Turing, ce mathématicien et cryptologue qui avait déchiffré les codes secrets nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce personnage ouvertement homosexuel a quand même préféré la castration chimique à la prison en 1952, lorsqu'on avait découvert qu'il avait eu des relations homosexuelles, et on l'a retrouvé mort en 1954 dans sa maison où il s'est suicidé. Il a été quand même gracié de manière posthume lui aussi en 2013 par la reine Elisabeth. Cette loi est donc le résultat des efforts de la famille de Turing et de nombreuses associations LGBT. Une pétition initiée par sa famille avait été largement soutenue, à tel point même qu'elle avait été déposée en 2015, juste avant la General Election, à Downing Street, la résidence du Premier ministre anglais. Néanmoins, comme certains le soulignent, des excuses publiques auraient peut-être été plus appréciées, mais un pardon royal est peut-être le premier pas vers une reconnaissance de cette communauté LGBT, Et finalement, on peut considérer que c'est une nouvelle assez enthousiasmante.
Et on va terminer cette série de petites chroniques avec l'histoire qui va vous faire sourire aujourd'hui. C'est ce papa qui a dû entreprendre un voyage en avion avec sa fille de 3 ans, catastrophe, le jour d'Halloween. Alors la petite fille a cru ne pas pouvoir aller réclamer des bonbons déguisés, mais c'était sans compter sur son père, sauveur du monde moderne. Alors il a distribué discrètement à tous les passagers de l'avion, avec un petit mot pour leur expliquer la situation, une portion de bonbons à donner à sa fille lorsqu'elle passerait parmi eux. Bon, si cette nouvelle ne vous réjouit pas, vous tous pourfendeurs de la société de consommation, au moins vous pouvez rire à gorge déployée en imaginant cette petite fille déguisée en donut, oui. Les Américains n'ont aucune limite quand il s'agit de sucreries. Donc cette petite fille déguisée en donut passait parmi les passagers d'un vol à travers les États-Unis.
Et on enchaîne donc maintenant avec les chroniques. Et oui, novembre, en dehors du No Shave November, c'est aussi le mois du NaNoWriMo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Derrière ce nom un petit peu barbare, on ne se le cache pas, il y a un événement annuel qui commence à être bien organisé et à se populariser. Le NaNoWriMo, ou National November Writing Month, c'est un challenge d'écriture créative né aux États-Unis en 1999. Il s'adresse à tout le monde, les aspirants romanciers comme les écrivains aguerris, il concerne tous les genres, qu'il s'agisse de poésie ou de prose, et va des poèmes et nouvelles à de longs romans. L'objectif est simple, en tout cas sur le papier. Écrire 50 000 mots, ou plus, en un mois. Pour vous donner une petite idée de la difficulté de la tâche, cela correspond à environ 180 pages standard, à savoir 1666,66666 et ça continue, mots. Par jour, oui, vous avez bien entendu. Donc si on prend en compte le fait que les participants viennent de tous les horizons et bien souvent travaillent ou étudient, on verra bien que la barre est mise assez haut. Le but, comme le déclarent les organisateurs eux-mêmes, n'est donc pas d'écrire de la qualité, mais d'écrire en quantité. Il s'agit de provoquer l'écriture et d'encourager la créativité. Les objectifs que chacun se fixe ne sont donc pas nécessairement les mêmes. Certains vont considérer que le NaNoWriMo, c'est l'occasion d'écrire un roman complet, tandis que d'autres y voient surtout une période d'écriture productive pour un roman plus long. Mais d'où vient donc ce challenge? C'est une deuxième question à laquelle il nous faut répondre. Eh bien, ce challenge vient des États-Unis, évidemment comme j'ai déjà évoqué, mais plus précisément, c'est l'écrivain Chris Beatty qui lance l'initiative en juillet 1999 dans la région de San Francisco, avec au départ 21 participants. Un an plus tard, il décide de déplacer ce challenge à novembre pour contrer le mauvais temps et l'ambiance de déprime du mois, un petit peu comme nous aujourd'hui. C'est cette année-là que le site internet est créé, et le nombre de participants augmente à 140 personnes. Les règles sont aussi établies. Le roman doit être nouveau, ne peut être écrit que par une personne et doit être remis à temps pour être vérifié. On remarque le succès de ce challenge littéraire, puisqu'en 2001, ce sont 5000 personnes qui se sont inscrites, ce qui a poussé des journaux américains assez reconnus à s'intéresser au phénomène. En 2012, le phénomène a connu un tel succès que le site officiel a reçu plus d'un million de visiteurs. Depuis, le site s'est encore développé et l'événement gagne en visibilité. Alors vous allez me dire, d'accord, c'est très bien tout ça, mais en quoi est-ce une bonne nouvelle et surtout, en quoi est-ce une nouvelle? Parce que je vous l'accorde, la nouveauté est assez relative puisque le challenge existe depuis longtemps, mea culpa comme on le disait à Rome. Mais laissez-moi vous dire que c'est quand même un événement qui fait du bien, c'est un événement feel good, même si on ne le réussit pas. D'abord parce que le NaNoWriMo, malgré l'attention et même voire l'abnégation qu'il demande, c'est avant tout un événement collectif. La communauté des auteurs, les RIMOs comme on les appelle, est très active et notamment sur Twitter où encouragements et conseils sont prodigués tous les jours. Un forum existe également avec un topic dédié à la procrastination collective, je cite, et je pense que c'est un titre qui nous parlerait un peu à tous. Le challenge, s'il commence officiellement le 1er novembre, débute bien plus tôt pour les participants. Dès septembre, la communauté des RIMOs passe à l'action, conseille pour bien identifier ses personnages, bien définir les limites de son roman, du monde exploré, etc. Sur YouTube par exemple, les vidéos sur le sujet se multiplient, bref, c'est un peu effervescent et bonne ambiance. On note que ce challenge est aussi assez apprécié, puisque de nombreux romans issus du NaNoWriMo ont pu être publiés et appréciés, peut-être pas par la critique, mais en tout cas par des lecteurs qui ont apprécié leur lecture. Et enfin, on peut considérer que le NaNoWriMo est une bonne nouvelle, là aussi, parce que le développement d'un challenge avant tout créatif ne peut que nous réjouir.
Alors moi, de mon côté, j'ai une très bonne nouvelle, mais qui va mener de nombreuses personnes à la procrastination. C'est une très bonne nouvelle pour tous les passionnés de jeux vidéo, et plus particulièrement des jeux de stratégie. Civilization VI est sorti le 21 octobre, et continue donc une des franchises du jeu vidéo les plus réussies et appréciées de tous les temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, Civilization, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, donc comme les échecs ou tant d'autres jeux de plateau, mais c'est pas la majorité des jeux vidéo, où on dirige une civilisation de l'Antiquité jusqu'au futur, sur un monde aléatoire, donc qui n'est pas la Terre, sur lequel il va falloir explorer, découvrir, essayer de trouver les meilleurs emplacements pour fonder des villes, créer des unités qui peuvent être des ouvriers ou des armées, et partir à la conquête finalement du monde avec des ennemis, des avancées technologiques, des ressources dont il faut prendre le contrôle. Bref, un énorme caractère stratégique et un énorme caractère aussi communautaire, puisqu'il y a énormément de gens qui jouent entre amis et aussi contre l'ordinateur dans des parties solo qui peuvent durer des heures, des journées, voire des semaines. Chaque sortie du jeu a des nouveaux concepts, des nouvelles choses qui sont ajoutées, et pour cette sixième mouture du jeu, Civilization VI, c'est la dispersion des villes sur plusieurs cases, puisque les villes ne sont plus mises sur une seule case du jeu, mais sont dispersées avec des quartiers dont les ennemis vont pouvoir prendre par exemple le contrôle, ou bien en les construisant on va devoir les mettre l'un à côté de l'autre, etc., pour avoir des bonus différents. Bref, ça amène beaucoup plus de choix dans la partie construction de votre empire, et donc c'est une très mauvaise nouvelle pour votre emploi du temps, parce que ça va vous prendre encore plus de temps de planifier votre partie de Civilization. Mais ce qui est assez réconfortant, c'est de voir que la franchise se renouvelle à chaque fois, et que les concepteurs de Civilization ne se bornent jamais à proposer juste une version remise à jour du jeu encore et encore. Pour l'historique, ce jeu existe depuis de nombreuses années, il est plus vieux que nous. Sid Meier a créé Civilization en 91. Ensuite, il y a eu donc Civilization 2 en 96, 3 2001, puis 2005, 2010, et enfin, cette sixième version arrive en 2016 après des années d'attente. Alors pendant ces années d'attente, évidemment les concepteurs du jeu n'ont pas chômé, puisque chaque version du jeu vient avec ses extensions qui sortent entre les versions majeures, et donc ça c'est la bonne nouvelle, on a toujours des nouveautés qui sortent régulièrement, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Quant au succès commercial du jeu, il a été assez phénoménal, puisque en tout c'est 35 millions d'exemplaires de Civilization qui ont été vendus depuis sa sortie au début des années 90, dont 8 millions pour la dernière version, Civilization 5, qui était sortie en 2010. Moi, personnellement, j'ai commencé avec Civilization 4. Est-ce que Alice...
Moi, j'ai commencé l'année dernière en prépa. Ouh, qu'est-ce que c'est mal
avec C'est la meilleure façon de commencer un jeu vidéo.
Avec le cinquième Civilization.
D'accord. Et du coup, tu comptes acheter le 6 ?
Pour l'instant, c'est pas trop dans mes moyens, mais...
Voilà, alors justement, c'était... prochaine partie de ma chronique, le seul problème, l'ombre, le point noir sur la bonne nouvelle qu'est la sortie de ce nouveau jeu, c'est le prix. Donc actuellement, je vous le dis, c'est 60€ pour le jeu. Ça ne comprend même pas les futures expansions qui vont sortir. Donc moi, personnellement, je vais continuer à jouer avec les versions précédentes, mais ça n'a pas empêché Civilization VI de se vendre à plus d'un million d'exemplaires en seulement 2 semaines. Donc à la fin de la franchise, on peut pas dire qu'elle soit pour maintenant. Ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Alors, si je ne vous ai pas convaincu d'essayer les versions précédentes du jeu, je ne vous demande pas de débourser 60€, voyons. Une expression qui revient fréquemment, c'est « one more turn », puisque le principe de ce jeu au tour par tour, c'est que quand vous commencez à jouer, vous ne pouvez plus vous arrêter, parce que peut-être qu'au tour prochain, il va se passer quelque chose et il faudrait que je continue pour savoir ce qui va se passer. Et une preuve que ce goût pour le jeu ne s'éteint pas auprès des fans, c'est tous ces tweets qui se font retweeter à tour de bras par les community managers de Civilization, tous ces tweets qui disent « il est 3h du matin et je n'ai pas vu le temps passer, il est 4h et je n'ai pas fait mon travail ». Bref, bienvenue dans le monde de Civilization où il y a toujours le temps de continuer à jouer encore un peu.
Et donc après tant d'enthousiasme, on va peut-être vous laisser le temps de vous calmer un petit peu et d'aller peut-être télécharger Civilization ou d'aller commencer votre roman. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau plein de bonnes nouvelles.